Dieu qui agit, qui répond dans les petites et les grandes choses. Et la plus grande chose qu'il ait faite, en tout cas pour nous, qu'il avons découvert, c'est de sauver notre âme. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela. J'aimerais lire avec vous un texte de la Bible, de la parole de Dieu, car la Bible c'est la parole de Dieu, un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà, qui nous relate les premiers temps de l'Église chrétienne, avec notamment le ministère de cet homme de Dieu remarquable qui était l'apôtre Paul. Et voilà donc un épisode de la vie et du ministère de Paul qui nous est relaté là dans ce chapitre 16 du livre des Actes au verset 25. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 25, il est dit ceci, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille, de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Voilà. Et cette dernière phrase nous dit, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez, l'évangile est un message d'espérance, un message de joie. Alléluia. C'est le but du Seigneur. Si peut-être vous êtes abattu, défait, confus, parce que toutes sortes de problèmes se sont accumulés dans votre existence, de vous rendre la joie de vivre que peut-être vous avez perdu depuis bien longtemps. C'était un temps de persécution. Ce temps-là, les chrétiens étaient pourchassés, souvent mis en prison, parfois même mis à mort. Marquez, ces faits se reproduisent encore aujourd'hui, non pas dans notre pays, Dieu merci, mais dans bien des contrées du monde, encore les chrétiens sont ainsi persécutés. Et donc, on avait mis ces deux hommes de Dieu remarquables, Paul et Silas, en prison, après les avoir copieusement, comment il faut dire, passés à tabac, en tout cas chargés de coups, flagellés, mais parce qu'ils étaient des hommes de Dieu, ils savaient se confier en Dieu, et plutôt que de se lamenter sur leur triste sort, l'Écriture dit que là, en pleine nuit, au fond de cette sombre prison, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Vous voyez, ça c'est le propre d'un chrétien authentique. Il peut connaître l'épreuve, la souffrance, les difficultés. Mais cependant, la joie de Dieu, la joie du salut, l'espérance de la vie éternelle, l'assurance que le Seigneur est à ses côtés en tout temps, en toutes circonstances, tout cela demeure au fond de son cœur. Et le texte nous dit que, voilà, tout à coup, j'ai envie de dire, sans crier gare. Tout à coup, eh bien, il se fit un grand tremblement de terre, et le texte ajoute, les fondements de la prison furent ébranlés. Voilà, ça a tremblé du plafond, des murs, et même en dessous des murs, jusque dans les fondations, voyez, tout l'édifice a été copieusement ébranlé. Le texte dit même que les portes se sont ouvertes tout à coup avec fracas. Pourtant, les portes d'une prison, hein, c'est du solide. Les liens de tous les prisonniers se sont décellés. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre et les fondements furent ébranlés. Vous savez, dans la vie, eh bien, c'est parfois que, comme ça que les choses se passent. On est tranquille, tout va bien, on a une vie paisible, tranquille, j'allais dire pépère, hein, avec l'épouse, les enfants. Et puis parfois, dans l'existence, tout chavire, tout s'écroule en un instant. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre quelque chose comme ça? Certainement, certainement qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont fait cette triste expérience alors qu'ils vivaient une vie banale, mais une vie paisible, tranquille, sereine. Eh bien, voici que tout à coup, un événement, ou plusieurs événements se sont produits qui ont fait que tout a chaviré, tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils prévoyaient, tout ce qu'ils planifiaient s'est écroulé comme un lamentable château de cartes, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Alors, ça peut avoir plusieurs raisons, hein. Ça peut être la maladie qui tout à coup surgit, le diagnostic du médecin qui nous regarde droit dans les yeux et qui vous dit, monsieur, madame, eh bien le scanner a révélé que vous étiez atteint d'une tumeur cancéreuse. Ah ! Et c'est le tremblement de terre. Parce que dans notre tête, tout à coup, il y a bien des choses qui sont mises en marche. Ça peut être un handicap qui surgit, voyez. J'ai un de mes amis qui est dans ce triste état, je l'ai connu alors qu'il était jeune encore, un beau gaillard de 1,90 m, en pleine forme, solide, costaud, beau aussi, un beau gars, quoi, et aujourd'hui, eh bien, il est réduit à l'état excusez-moi l'expression, mais je vais l'employer, de loc, sur un fauteuil roulant, parce que l'handicap a surgi. Rien ne le laissait prévoir, vous voyez. Mais peu à peu, la maladie, l'handicap se sont installés. Ça peut être un accident. Ça peut être un deuil. Voilà, en pleine nuit, le téléphone sonne. Il y a là, à l'autre bout du fil, un gendarme qui nous avertit qu'un de membres de notre famille, eh bien, a été fauché par quelques chauffards là. Et eh bien, les choses sont ainsi. Il est décédé. Ça peut être un échec professionnel. Un échec professionnel. Voilà, que notre responsable administratif, hein, notre DRH nous convoque dans son bureau et avec beaucoup de précautions, nous avertit que eh bien, le contrat est rompu et que on se retrouve gentiment mis à la rue. On ne s'y attendait pas. Tout allait bien la veille ou la semaine précédente. On pensait que ça allait rouler, quoi. Et puis tout à coup, tout s'écroule. Ça peut être un échec dans les études. On a pourtant travaillé, on a pourtant bossé, bûché dur pendant des semaines, des mois, voire des années. Et puis lorsqu'on arrive au terme, à l'examen final, au concours, on espérait que, eh bien notre espoir est déçu et tous nos rêves s'écroulent. Ça peut être un échec sentimental. On pensait qu'on allait faire sa vie avec celui-ci ou avec celle-là. Et puis voilà que celui-ci ou le celle-là, il a trouvé quelqu'un d'autre, hein. Et alors, on tombe à la renverse, on se dit, mais pourquoi, moi, cela m'arrive? Ça peut être un divorce, ça peut être bien des choses. Tout à coup, les fondements furent ébranlés. Et quand des choses de ce genre, comme celles que je viens d'évoquer, se produisent, tout à coup, c'est vrai, tout est renversé soudainement. Notre assurance, notre bonheur, notre sécurité, on en parlait dimanche dernier pour ceux qui étaient là, notre réussite, nos espoirs, nos rêves. Est-ce que vous avez des rêves, hein? C'est pas interdit d'avoir des rêves, c'est pas interdit d'avoir des projets. Mais parfois, alors que nous pensons que nous sommes sur le point d'atteindre le but, tout à coup, un événement fâcheux se produit et tout chavire et tout s'écroule. Et certains, comme là dans le texte, en arrivent au suicide parce que le geôlier n'avait pas prévu ça, hein? Le soir, il avait dû s'endormir tranquillement, comme on dit, du sommeil du juste. Enfin, je ne sais pas s'il était si juste que ça, mais passons sur l'affaire. Et tout à coup, voilà, le tremblement de terre, il voit les portes ouvertes, il voit les liens des prisonniers décellés, ceci, ils ont tous fait la belle et on va me redemander du compte, parce qu'on n'était pas tant en ce temps-là. Aujourd'hui, il y a les syndicats, il y a tout le reste. Mais à cette époque-là, mes amis, un geôlier était responsable sur sa vie du sort des prisonniers qui étaient sous sa responsabilité. Alors il s'est dit, perdu pour perdu, mieux vaut en finir tout de suite, et dégainant son épée, il allait accomplir le geste fatal. Je ne sais pas. Peut-être au milieu de nous, il peut y avoir des gens qui sont travaillés par des idées de ce genre. En finir, vous dites à quoi bon ? À quoi bon poursuivre ? À quoi bon continuer cette chaîne de vie ? À quoi bon insister ? À quoi bon me battre puisque rien n'a marché, puisque tout s'écroule, mieux vaut en finir tout de suite. Alors, dans la prison, un cri a retenti parce que dans la pénombre, Paul a discerné, a aperçu le geste que le pauvre geôlier était sur le point d'accomplir. Arrête ! Nous sommes tous ici, ne te fais point de mal. Et si quelqu'un était travaillé par des idées morbides, nous voudrions vous dire de la part du Seigneur, ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal, parce qu'il y a une autre solution que d'envisager cette solution du suicide. La solution existe, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, a dit le geôlier, pour être sauvé, pour m'en sortir, pour être délivré? Et l'apôtre a répondu, crois, mais crois donc au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est le message que nous voudrions vous annoncer, chers amis. Nous ne vous prêchons pas une religion. Nous ne voulons pas, nous ne devons pas vous prêcher une église, même pas la nôtre, et pourtant nous l'aimons. Mais nous vous prêchons Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait dans l'un de ses écrits, ce n'est pas nous-mêmes, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui agit encore aujourd'hui. Nous l'avons chanté tout à l'heure dans ce dernier cantique, qui disait « Dieu est là ». Et moi je vous dis cet après-midi, Dieu est là. Ça n'est pas un rêve, ça n'est pas, eh bien parce que ça nous fait plaisir simplement de dire de telles choses. C'est une glorieuse réalité. Le Seigneur a promis d'être présent lorsque nous étions réunis en son nom. Et c'est bien le cas. Vous savez, dans la vie, pour revenir à ce sujet que nous évoquions, tout à coup, les fondements furent ébranlés. Tout a, dans la vie de la plupart, sinon dans la totalité des gens, eh bien, des événements fâcheux se produisent. Je ne connais pas beaucoup de gens qui passent au travers des épreuves d'une manière absolue. Et tôt ou tard, on finit toujours par connaître, d'une manière ou d'une autre, la ruine, la déchéance, le désespoir. C'est l'histoire que nous a racontée Jésus dans un passage bien connu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Je voudrais évoquer ce fait. Il parle d'une maison bâtie sur le roc et d'une maison bâtie sur le sable. Il y a quelque temps, nous avons, avec mon épouse, vu un reportage à la télé de la façon dont les immeubles sont construits à Dubaï. Ça vous sait, Dubaï ? C'est le désert là-bas. Hein ? Et il y a 30 mètres de sable avant d'atteindre le roc. Eh bien, quand on s'apprête dans ce pays-là à construire un immeuble, et il y a de grands immeubles, il faut qu'avec des machines sophistiquées, vous voyez, les ouvriers, les ingénieurs travaillent pour enfoncer des pieux qui vont atteindre le roc à 30 mètres de profondeur. Après, on coule du béton, et une fois que c'est posé sur le roc, ça peut s'élever au-dessus. Parce que s'il n'y a pas ça, si on bâtit sur le sable, même si la construction est magnifique, elle finira par s'écrouler. Eh, mes amis, il faut croire que Jésus s'y connaissait en maçonnerie, hein, puisqu'il nous dit qu'une maison bâtie sur le sable, elle finit toujours par s'écrouler. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, il dit, voilà, celui qui vient à moi, qui entend mes paroles, mais qui ne les met pas en pratique, qui a des oreilles à courant d'air, il est semblable à un homme insensé, à un espèce de fou qui bâtit sa maison sur le sable. Alors la maison peut être magnifique par ailleurs, elle peut être très sophistiquée, très bien arrangée, voilà. Mais lorsque le torrent déborde, lorsque le vent souffle, lorsque la tempête se déchaîne, eh bien la maison s'écroule, et dit Jésus, sa ruine est grande. Tandis que celui qui vient à moi, dit encore Jésus, qui entend mes paroles, mes enseignements, et qui les met en pratique, celui-là, il est semblable à un homme sensé, un homme de bon sens, un homme intelligent, j'espère que vous serez du nombre, qui voulant bâtir sa maison, creuse d'abord, afin de poser le fondement sur le roc. Et ensuite, par-dessus cette fondation, il élève la maison. Et là aussi, la tempête vient, elle vient toujours, elle finit toujours par venir. Là aussi, le torrent vient, n'est-ce pas, frapper contre les murs de cette maison, mais elle tient le choc, elle résiste parce qu'elle est bien bâtie, elle est posée sur le roc. Si vous voulez que votre vie ne s'écroule pas tôt ou tard, il vous faut appuyer votre vie sur la personne, sur l'œuvre et sur les déclarations de Jésus. C'est comme ça que ça tient le coup. Et je peux vous garantir que c'est vrai pour l'avoir expérimenté. Ce ne sont pas seulement de beaux discours que nous voulons prononcer, mais ce sont des choses que nous avons touchées du doigt, que nous avons vérifiées, que nous avons expérimentées, que nous avons vécues. Le Seigneur est en mesure, n'est-ce pas, d'apporter à notre vie ce secours dont nous avons besoin. Si vous voulez qu'un moment ou un autre, votre vie ne s'écroule pas, ne finisse pas par une ruine, vous avez besoin de Jésus. C'est le fondement de notre existence. J'ai compris cela, j'étais un tout jeune homme, j'avais une quinzaine d'années. Lorsque mes camarades se sont aperçus que je n'allais plus avec eux, tout au moins beaucoup moins, que je ne pouvais pas plus me rendre dans les endroits où ils se rendaient. Bien sûr, j'en ai entendu de tout, on s'est moqué de moi, on m'a dit « tu es fou », etc., etc., etc. Mais je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Le temps a passé, des dizaines en ont passé par là. Lorsque je me retourne, que je vois quelle est leur vie, ou quelle a été leur vie, quelle est la mienne, je me dis au fond, c'est toi qui as fait le bon choix. Non pas que j'ai été plus intelligent, plus futé que qui que ce soit, mais la grâce de Dieu était là. Parce que dès le départ, dès mon adolescence, j'ai voulu bâtir, construire ma vie en l'appuyant, en la fondant sur la personne, sur l'œuvre et sur les paroles de Jésus. Et Jésus, comme disait Kevin tout à l'heure, il est le chemin, la vérité et la vie. Ici, c'est de lui, Jésus, que la solution est venue. Vous voyez, cet homme était au bout du rouleau. Je l'ai dit, il était sur le point d'en finir. Une épée dans le ventre et l'affaire aurait été réglée. Mais le cri a retenti. Arrête, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et effectivement, la parole de Dieu a été annoncée. L'évangile a été prêché. Non seulement à ce geôlier, mais à toute sa famille. Et ces gens-là, monsieur, madame, les enfants, ont accepté le message de la grâce. Ils ont accepté de croire que Jésus, le Fils de Dieu, était venu sur la terre des hommes pour pardonner nos péchés, pour s'offrir en sacrifice, afin que par son sacrifice, nos péchés puissent recevoir le pardon de la part du Père, et qu'à partir de là, notre vie connaisse une nouvelle orientation. Ils ont reçu ce message, ils l'ont accepté, ils ont cru. Vous savez, croire, ça n'est pas simplement une affaire intellectuelle. Croire, ça n'est pas suivre une tradition religieuse. Croire, ce n'est pas se plier à quelques rites ou quelques sacrements qui nous ont été enseignés par nos ancêtres. Non, croire, eh bien, c'est répondre à l'amour de Dieu par notre propre amour. Seigneur, tu m'as tellement aimé, alors en retour, je veux t'aimer à mon tour. Et parce que je veux t'aimer, eh bien je t'apporte ma vie, je me donne à toi, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Maître. Et c'est comme ça que notre vie tient d'aplomb, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Cet homme a été tiré d'affaire par la grâce de Dieu, ça peut vous arriver à vous aussi. Si vous vous confiez en lui, alléluia. Ne dites pas, non, monsieur le pasteur, les choses vont trop mal dans ma vie, les affaires sont trop dramatiques, je ne m'en sortirai jamais, et quoi que vous fassiez ou disiez, je ne peux me résoudre à croire que cela est vrai, et pourtant c'est vrai. des millions, que dis-je, des dizaines, des centaines de millions dans le monde aujourd'hui, ont expérimenté que tout pouvait changer par la grâce de Dieu. Ça peut vous arriver aussi. Vous pouvez sortir de vos échecs. Vous pouvez sortir de vos souffrances, qu'elles soient physiques ou morales. Vous pouvez sortir de vos mauvaises habitudes. Vous pouvez sortir de votre désespoir si vous mettez votre foi en Jésus-Christ. Si vous l'appelez à votre secours. Vous savez, la prière. Parfois, les gens ont une idée bizarre de ce qu'est la prière. Ils pensent que la prière, c'est une espèce de récitation. Voilà, on a appris laborieusement quelque chose à propos de Dieu. Alors on va répéter cela inlassablement, sans cesse et sans cesse. Et plus on le répétera, et plus on aura la chance d'être exaucé. Non ! Jésus a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de baratin, ils seront exaucés. C'est le cœur qui doit parler. Et cet après-midi, vous pouvez parler à Dieu, qui est là, on l'a dit, on l'a chanté, qui est là. Vous pouvez lui parler avec votre cœur. Dites-lui, mais dites-le lui donc, tout à l'heure, lorsque nous aurons un temps de prière. Dites-lui, j'en peux plus. Dites-lui, je suis au bout du rouleau. Dites-lui, je voudrais en sortir. Dites-lui, je suis un misérable. Dites-lui, je suis ficelé par un tas de mauvaises habitudes qui font partie de moi et je ne peux pas en sortir. Je fais appel à toi. J'accepte de faire confiance, Seigneur. Et si vous faites ainsi, je vous le dis, quelque chose va se passer. Quelque chose de bon. Parce que Dieu ne manque pas de répondre à la prière lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est dans la foi. Peut-être, au milieu de nous, certains diront, oui, mais moi, ça ne me concerne pas tout ce que vous me racontez. Parce que tout va bien. Peut-être, hein. Il peut y avoir au milieu de nous des gens là qui disent, eh bien, après tout, ça ne va pas si mal que ça. Je suis tranquille dans ma vie. Pas de problème de santé particulier, pas de problème matériel non plus. Je ne suis pas riche, mais j'arrive à m'en sortir. Dans la famille, ça tourne rond, ça baigne dans l'huile. Que demander de plus? Oui, tout va bien. Et plaise à Dieu que ça continue comme ça. Mais je voudrais vous dire ceci. Même si tout va bien, vous avez quand même besoin de Jésus. Vous avez quand même besoin de Jésus, car il existe une autre réalité. Une autre réalité, c'est la réalité de la mort. Vous y pensez? On évacue la mort. On veut repousser cette idée. Non, 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 ça arrivera, certainement. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, certainement que je vais mourir à 99 ans et de poussière. Hein. Alors, j'ai encore le temps, mais soit! Mais que ce soit à 99 ans, ou même beaucoup plus tard, pourquoi pas, ou beaucoup plus tôt, ça arrivera. Et l'Écriture nous donne cet avertissement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On veut nous faire croire que lorsque la tombe se referme sur notre cercueil, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça commence au contraire. C'est l'éternité qui nous attend. Et si nous n'avons pas osé, voulu aborder cette réalité de la mort et du jugement qui la suit de notre vivant, alors mes amis, nous aurons une désagréable surprise de l'autre côté. Et les illusions tomberont. Écoutez à cet égard ce que la parole de Dieu nous dit. Je le lis pour vous dans une épître que l'apôtre Paul, encore lui, a pu rédiger. Il a dit ceci, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. » Oui, Jésus revient, amen. « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, ceux qui n'ont pas voulu connaître Dieu et qui n'auront pas voulu de l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui disent, bon, c'est des balivernes, j'ai pas besoin de votre Dieu, il n'y a rien après la mort. Eh bien, mes amis, ils seront l'objet du jugement et de la condamnation divine. Pour que cela ne soit pas votre sort tragique, pour que vous ne connaissiez pas, comme le dit le texte, une ruine éternelle, une ruine définitive, le jugement, la condamnation, l'enfer, la malédiction, les tourments éternels, il vous faut faire maintenant la paix avec Dieu. Il vous faut accepter Christ comme votre sauveur, puisque c'est lui le sauveur. Le geôlier a posé la question capitale. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? La réponse est venue sur le champ. Croire! Mais crois donc au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Eh bien, c'est ce que nous voulons vous dire cet après-midi. Si au jour du jugement, car jugement il y aura, c'est certain, vous voulez être épargné, sauvé et avoir en partage non pas une éternité de tourment, mais une éternité de gloire et de bonheur auprès de Dieu dans le ciel, il vous faut mettre votre foi en Jésus-Christ. Il vous faut lui demander pardon de vos erreurs, de vos fautes, de vos faillites morales, de vos péchés, quoi. Et il vous faut accepter de croire que pour que tous ces éléments négatifs de votre vie soient effacés et pardonnés, lui, Jésus, a dû mourir sur une croix, subissant à votre place le châtiment que vous méritiez. De telle sorte que si vous lui faites confiance, non pas parce que vous le méritez, mais parce que lui l'a mérité pour vous, alléluia, vous serez pardonné, vous serez sauvé, et vous serez comme un autre homme de notre histoire, le geôlier. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions-le quelques instants, voulez-vous. Notre Dieu, notre Père,